nationalité française. Ils n'avaient plus le droit d'être français. Après, ils n'avaient plus le droit de servir dans la fonction publique. C'est-à-dire que ceux qui étaient enseignants, qui étaient militaires, qui étaient tout ce que vous voulez, renvoyés. Après, ils n'avaient pas le droit non plus d'exercer des professions libérales. C'est-à-dire pas le droit d'être médecin, pas le droit d'être dentiste, pas le droit d'être infirmier, rien de tout ça. Et ils n'avaient pas le droit de changer de domicile. S'ils habitaient quelque part, ils ne pouvaient pas déménager. Ils n'avaient pas le droit de sortir après 8 heures du soir. Ils n'avaient pas le droit d'avoir un poste de radio. Ils n'avaient pas le droit d'avoir une voiture, une bicyclette. Ils n'avaient pas le droit d'avoir un téléphone. Ce que je ne peux pas vous dire encore. Et alors, en plus de ça, dès 1941, on leur a demandé... Tiens, je vous fais passer cette liste parce que c'est quand même assez, assez parlant. Dès 1941, on a demandé aux Juifs d'aller s'inscrire dans les préfectures ou les mairies qui étaient les plus proches de chez eux. Pourquoi faire ? Pour pouvoir les comptabiliser et les retrouver. Donc, du coup, on avait leur adresse, on avait leur nom. Et le jour où on voulait les arrêter, c'était très facile. On allait frapper à leur porte et c'était fini. Et en même temps...
Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux et son cocktail musical habituel. Alors nous allons voyager aujourd'hui, nous allons partir en voyage avec Gwenaëlle Abolivier, qui vient nous présenter un livre passionnant, Ella Maillard, l'intrépide femme du globe. Ça vient de paraître, c'est un beau livre, hein, ça vient de paraître aux éditions Paul Sen. Alors, Gwenaëlle Abolivier, bonjour.
Bonjour, Valère-Marie.
C'est vrai que ce livre, d'abord le titre de votre livre, Ella Maillard, l'intrépide femme du globe. Est-ce que ça vient finalement d'une citation de Paul Valéry, que vous citez à un moment donné dans votre livre, que Paul Valéry, c'est une dédicace qu'il aurait fait à Ella Maillard. Il a réécrit à Ella Maillard, femme du globe, le poète qui l'entrevit. Ça, c'est pas mal dit. Est-ce que ça vient... D'où vient ce titre ?
Oui, bah écoutez, je vois que vous avez bien vu, vous avez bien lu. Je vois votre connaissance aussi de la poésie, Valère. Absolument, c'est bien Paul Valéry et ce personnage, comme vous le savez, enterré au cimetière marin de Sète, qui m'a inspiré ce titre, l'intrépide. Bon, c'est vrai qu'Ella Maillard est une intrépide. Je pense que pendant notre émission, nous allons en parler. Mais c'est vrai que c'est bien lui qui m'a insufflé cette idée. D'ailleurs, elle avait avec elle, Ella Maillard, elle avait de la poésie de Paul Valéry avec elle, hein, lorsqu'elle va partir pour ce grand voyage exceptionnel à travers les oasis interdites, le Xinjiang, en compagnie de Peter Fleming, on en reparlera. Mais elle avait bien sa poésie dans son sac. Voilà, cette poésie qui va traverser le monde. Et par la suite, j'ai eu vraiment le bonheur de découvrir ce recueil dans sa bibliothèque à Chandolin, dans le Valais suisse.
Alors bon, c'est un livre, votre livre, c'est une escapade, c'est un voyage au long cours, comme on pourrait dire. Alors on dit partir, c'est mourir un peu, et j'ai l'impression qu'avec Ella Maillard, c'est un peu l'inverse. C'est plutôt partir, c'est renaître un peu, c'est revivre. Voilà ce qu'elle est. Je pense que c'est elle qui écrit ça. Jamais matin de ma vie ne m'a semblé plus beau. J'aimerais trouver un cri qui dise tout ce que je sens. Partir, c'est revivre. Tout est dans ces phrases. Il faut dire que votre livre, Gwenaëlle Abolivier, est jalonné par la voix d'Ella Maillard.
C'est vrai que j'ai cherché à travers ce travail. Bon, vous avez, effectivement, il s'agit d'un beau livre, hein, près de 300 pages. Donc, il s'agit d'un portrait illustré avec énormément d'archives photos. On parlera certainement des photographies qu'elle a réalisées. Voilà, les musées et en particulier le musée de l'Élysée à Lausanne conservent ces 20 000 clichés. Mais c'est vrai que pour travailler sur ce personnage d'Ella Maillard, je suis allée à la source et donc aux archives de Genève. Je me suis plongée dans ses carnets. dans ces carnets inédits. Donc j'ai pu consulter toute cette manne et j'ai pu en tirer des extraits inédits qui viennent ponctuer finalement le récit que je fais de sa vie au long cours.
Alors quel est le point de départ de ce livre ? Est-ce une lecture, un voyage, un arrêt sur image ? Voilà ce que vous écrivez, Gwenaëlle Aubolivier. C'est l'histoire d'un lac d'origine glaciaire situé entre la Suisse et la France, un lac en forme de croissant de lune qui est venu se déposer dans l'imaginaire d'une enfant, le léman, bulle évanescente d'un bleu limpide, va agir sur la destinée des Lamayas. Alors on part d'un paysage, on part de l'eau, on parle aussi de la terre et de la montagne. Après vous écrivez, mais petit à petit, sans qu'elle s'en aperçoive, le léman va s'immisquer en elle pour devenir une merveilleuse source de fascination et d'énergie. Au bord de cet élément liquide, elle s'ouvre à la vie, grandit à mesure que ses rêves vont éclore. Le lac devient cet appel au voyage qui ne la quittera plus. Alors j'allais dire l'eau dormante va y jaillir, un drôle de phénomène, bouillonnant, intrépide, une globe-trotteur qui est née, alors pour nos auditeurs, parce qu'il faut quand même que je sois sérieuse moi, hein, elle est née le 20 février 1903 à Genève, et elle est décédée le 27 mars 1987 à Chandolin, donc c'était son refuge. C'est la fille d'un fourreur, un genevois, et d'une sportive danoise, une femme. Donc d'un côté le sport, elle a quand même ce qu'il faut, c'est de la elle vient de la bourgeoisie quand même assez aisée, et tout part de ce lac où elle va faire rencontrer sa voisine.
Oui, bah c'est vrai que bon, y a beaucoup de choses à chercher un peu dans l'enfance, hein, finalement des uns et des autres. Mais elle va naître en effet à Genève. Sa petite enfance, elle va la vivre entre cette grande ville et un petit village qui est le village du Creux de Gentot, à 7 km de Genève, où ses parents vont décider de louer une maison. Et c'est vrai que quelque chose va se passer là. Ella Maillard est une enfant, elle a quelques années, et c'est vrai qu'elle va tomber en pamoison devant cette pièce d'eau. Il faut dire que le lac Léman, c'est vrai que c'est un lieu fantastique, magnifique. Et c'est vrai que bon, l'élément liquide va jouer en sa faveur, on va dire, et l'élément liquide va vraiment lui donner envie de pouvoir dresser les voiles et partir à un moment donné, puisque dans ce village du Creux de Gentot, elle aura comme voisine, en effet, Hermine de Saussure, dite Miette, hein, aussi légère qu'une miette, voilà, toutes les deux seront vraiment les meilleures compagnes du monde, elles vont grandir ensemble, elles seront adolescentes ensemble, et à partir de là, elles vont tester la voile, elles vont faire les premières régates, etc. Elles vont s'imaginer ailleurs. Alors, il y a d'autres raisons très profondes à tout ça, hein, puisqu'il faut replacer dans son contexte dans les années 1910, après-guerre aussi, après Première Guerre mondiale. Ce sont des jeunes filles très concernées, qui ont été aussi très marquées par ce conflit. Toutes les deux auront lu Les Croix de Bois de Roland Dorgelès. Donc, elles vont s'imaginer dans un autre monde, en fait, loin des parapets européens. Elles ne comprennent pas comment leurs aînés ont pu produire cette boucherie, en fait. Hein. Et ça, c'est un point crucial. Pour Ella Maillard, elle va toute sa vie se poser cette question et vouloir faire ce pas de côté et chercher, en fait, à être heureuse sur les marges. Elle va pas du tout vouloir se fabriquer, en fait, un monde, comme vous le disiez tout à l'heure, petit bourgeois. Loin de là, elle va s'imaginer sur les routes et s'affranchir, en fait, de tout ça.
Non, ce que je voulais dire simplement, c'est elle vient d'un milieu, d'ailleurs, toutes ses compagnons de voyage, y compris, c'est un milieu assez aisé. C'était juste le point de départ. Mais c'est,
oui,
c'est,
tout voilà. À fait.
Alors, ce qu'on peut se demander, la question qu'on peut se poser quand même, bon, elle rencontre sa meilleure amie, Hermine de Saussure. Voilà ce que vous dites. En 1913, elle rencontre sa meilleure amie, Hermine de Saussure. Donc, en fait, c'est la mère de Delphine Seyrig. Il faut quand même que ça, chez les auditeurs, c'est grâce à Hermine de Saussure qui a épousé Henri Seyrig, oui. Hein, et qui a donné Delphine Seyrig, une merveilleuse actrice. Et la question que moi je me suis posée, tout vient de cette rencontre-là. Hermine, vous dites, a de qui tenir. Elle est une descendante d'Horace Bénédicte de Saussure, naturaliste et géologue, professeur de philosophie et d'académie de Genève dès l'âge de 22 ans, mais également découvreur, considéré comme l'un des fondateurs de l'alpinisme. On se demande si sans cette rencontre-là, Ella Maillard serait devenue ce qu'elle est devenue. Alors, Bolivier, parce que grâce à elle, elle s'initie à la voile.
Oui, alors Bien sûr, on peut se demander. Bon, c'est vrai que le parcours d'Ella Maillard, il est jalonné de rencontres et la rencontre de Miette est une rencontre mais fondamentale. Hein. Elles vont rester d'ailleurs amies tout au long de leur vie. Bon, c'est vrai qu'avec Dessy, comme on dit, hein, comment on peut envisager les choses. Mais je pense qu'il y avait un elle en fait en Ella quand même cette volonté de voir les choses autrement, de prendre les choses en faisant un pas de côté. Ce fut la bonne rencontre. D'autant que Miette est beaucoup plus fortunée qu'Ella Maillard. Oui. Et c'est bien Miette qui financera l'achat des nombreux voiliers qui vont se succéder là, pendant une dizaine d'années, à commencer par ce petit voilier qui s'appelle Perlette, et sur lequel, cette petite coque de noix, elles vont partir toutes les deux, elles vont descendre le Rhône. Hein. Vous savez que le lac Léman, finalement, débouche sur le Rhône, elles vont partir vers la Méditerranée, où il y a pratiquement un siècle, hein, en fait. Hein. Il y a un siècle, on les retrouvait sur le Vieux-Port, à remettre en état cette coque de noix, et à partir vers la Corse. Elles vont réaliser comme ça une première navigation à la voile, à l'estime, sans moteur. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Hein. Faut replacer ça dans l'époque. Ce sont des jeunes filles intrépides qui recherchent une émancipation sur l'eau. Enfin, il faut aussi imaginer à ce moment-là que les Corses, les marins, là, les marins, les pêcheurs, ils devaient être totalement hallucinés de voir ces jeunes filles, vous voyez, en 1920, arriver comme ça sur leur voilier. Et tous les navires qui vont se succéder, hein, il y aura la Bonita, il y aura la Talente, enfin, c'est quand même des coûts importants. Et bah, finalement, c'est grâce à Miette, ça, il n'y a pas tortillé. Une fois que Miette va sortir du projet, bon, peut-être qu'on reparlera des raisons, Ella Maillard n'a pas d'autre choix que de se tourner vers un autre monde, finalement, vers autre chose, vers la voie terrestre. C'est comme ça qu'elle va se tourner vers l'Orient, finalement. Hein.
Oui, et là encore, quand elle rencontrera Anne-Marie Schwarzenbach, elle aussi est très riche, et elle a sa voiture aussi. Enfin, elle a quand même des rencontres providentielles. Mais ce qui est très, très important pour Ella Maillard, me semble-t-il, d'ailleurs, quand on voit les témoignages, on va écouter sa voix tout à l'heure à Ella Maillard, ce qui est marrant, c'est qu'elle dit... justement, elles étaient très critiquées par les marins de l'époque. Elle dit, mais non, nous, on navigue à l'estime. Voilà, on part à l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Alors, voilà ce que vous écrivez. Pendant tout un hiver, elles remettent en état Perlette et le préparent. Mise à sec au yacht club, elles vont, avec l'aide d'ouvriers du port, l'astiquer, le calfater, le poncer, le peindre, en un mot, l'armer. Projetant de naviguer à la voile, elles enlèvent le moteur qu'elles ont changé contre l'avitaillement et un réchaud, sans oublier les instruments de navigation. Je poursuis la lecture. Pendant leur croisière, Perlette est devenue un cabinet de lecture, une bibliothèque flottante, à l'image du Nautilus de Nemo. Les livres leur sont indispensables. Elles dévorent la croisière de Snark de Jack London, ou Seul autour du monde de Joshua Slocum. Les deux filles envisagent très sérieusement la possibilité de vivre en mer et dans les îles du Pacifique. Entre-temps, donc, Ella Maillard lira aussi Marin d'eau douce, écrit par un parent de Miette, hein, je crois, Guy de Pourtalès.
Tout à fait.
Donc, en fait, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'Ella Maillard, ce qu'elle rêve, c'est d'être un personnage de roman ?
Là, je vous vois venir, chère Valère.
Ben oui.
Je ne sais pas si tout à fait elle en a conscience de ça, mais elle en est un, en fait.
Hein,
ouais. Mais bon, c'est quelqu'un de... Bon, l'imaginaire, le rêve est important, mais c'est quand même quelqu'un de très pragmatique.
Oui. Et très organisé.
Il faut l'être, hein, aussi, surtout à bord d'une petite coque de noix, comme ça. Je crois qu'elle n'a pas, à l'époque, surtout, en tout cas, elle n'a pas du tout ce recul suffisant pour s'imaginer. Puis elle est toute jeune, hein. Elle est toute jeune, mais c'est vrai qu'avec le recul aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement c'est une scène assez initiatique, et puis c'est vrai que c'est adorable, quoi, de les imaginer, ces jeunes filles à bord de ce cabinet comme ça, de ce cabinet flottant. Oui, une réelle bibliothèque, en effet. Il y a quelque chose de romanesque, mais elles-mêmes, à mon avis, ne se sentent pas de personnages de roman. Elles ont juste envie de vivre. Ce sont des jeunes femmes qui ont envie de vivre, ça c'est sûr. Elles ont envie de s'émanciper, de s'imaginer un autre destin, alors qu'à l'époque, elles partent contre l'avis des parents, hein, faut bien dire, et puis les parents n'ont qu'une envie à l'époque, et en particulier son père, à Ella, a plus envie qu'elle fasse des études, et puis qu'elle trouve un bon parti.
Oui. Alors, c'est vrai que leur rêve, c'est de larguer les amarres. On va écouter la voix d'Ella Maillard. Je vous propose de l'écouter. Comme ça, ça va nous inspirer d'autres voyages intérieurs.
Chacun de mes livres est devenu une carte de visite qui m'a rendu des services incroyables. Je vais donner un petit exemple. Je fais un reportage pour l'illustrer et je me dis, tiens, je vais faire une interview du bandit Nero. Je fais passer ma carte de visite, j'attends peut-être 20 minutes, j'entre dans son bureau à Delhi, il a ma carte à la main comme ça, il me dit, c'est vous? Je dis, oui, je crois. Il ouvre ses bras et me dit, venez que je vous embrasse. Il était beau gars. Il me serre dans ses bras. Mais je me dis, mais je suis folle. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoutez, moi et mes deux sœurs, nous savons vos livres par cœur. Ah. Quand nous étions en prison, les Anglais ne voulant pas l'indépendance de l'Inde, nous lisions les livres de voyage. Et en tout cas, moi, j'ai lu vos livres, Oasis interdite et Démons célestes au sable rouge, je les sais par cœur. Cette maison est à vous, vous pouvez venir ici quand vous voulez. Vous savez, c'est un choc, ça.
C'était en 1993.
Oui. Voilà. Bon alors, c'est voilà. On vient d'écouter la voix d'Ella Maillard et qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, j'ai l'impression. Alors là, on l'écoute, c'est très chaleureux. L'impression que j'ai eue quand même, c'était pour moi un écrivain assez méconnu finalement, Ella Maillard. Est-ce que c'est pour ça aussi que vous avez voulu écrire ce livre, Gwenaëlla Bolivier, pour nous autres Français, parce qu'elle est, c'est peut-être le côté suisse qui nous est, écrivain suisse qui nous est plus méconnu.
Oui, qu'un... oui. Ben, c'est vrai que c'est pas. Ben, vous avez raison là. C'est sûr qu'elle est moins connue. Elle est moins connue en France, hein, Ella Maillard. Mais c'est, malgré tout, en Suisse, c'est un personnage. C'est une star, hein, j'allais dire. Alors, il y a certainement des raisons. Peut-être l'une des premières, malheureusement, c'est aussi parce que c'est une femme. Donc, elle a eu du mal à faire connaître son parcours, ses exploits, etc. Elle est peut-être plus connue aussi en tant que voyageuse, peut-être moins en tant qu'écrivain. Bon, elle a une plume, hein, elle mérite d'être lue. Il y a des choses vraiment qui sont plus intéressantes que d'autres. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on peut dire aussi que ce n'est pas non plus Nicolas Bouvier et la plume très littéraire de Nicolas Bouvier. Peut-être que finalement aussi Nicolas Bouvier, son parcours a peut-être porté une forme d'ombre aussi sur cette femme, même si, bon, on pourrait y revenir là-dessus, mais Ella Maillard est donc son aînée. Et Nicolas Bouvier est venu à plusieurs reprises la rencontrer, la consulter avant de partir sur la route de l'Afghanistan pour écrire, vous savez, son célèbre livre L'usage du monde, qui continue d'être encore une référence aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui a été très respecté et qui continue de l'être.
Mais voilà. Oui, mais en fait, Nicolas Bouvier lui a aussi rendu service à un moment donné, puisqu'il éclaire un peu l'œuvre aussi d'Ella Maillard. Je veux dire qu'elle c'est une femme, c'est aussi une génération, elle est née en 1903, donc voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'on a cette réaction-là avec beaucoup d'auteurs suisses en France, qui sont assez méconnus finalement, qui sont à la fois connus et voilà, et assez mal connus.
Oui, mais c'est vrai que j'ajouterais malgré tout que, et ça c'est un peu d'ailleurs Nicolas Bouvier qui le disait, mais Ella Maillard, c'est plus une voyageuse qu'un écrivain en fait, hein. Et c'est vraiment une voyageuse qui écrit. C'est pas l'inverse, par exemple, des écrivains qui vont voyager pour écrire, vous voyez.
Oui.
C'est vraiment pour Ella, c'est vraiment le voyage. D'abord le voyage. Et d'ailleurs, bon, l'écriture, ça a été pour elle quand même quelque chose de très compliqué. C'est très difficile pour elle.
Oui, mais c'est passionnant parce qu'on voit que c'est une femme qui a fait son possible de cette parenthèse de vie qui nous est donnée et elle a fait toutes les possibilités. Alors il y a d'autres rencontres. On a parlé parce qu'il y a vraiment, je dirais qu'il y a 5 rencontres dans sa vie à peu près qui sont importantes. C'est sa rencontre avec Alain Gerbaud.
Ah oui, essentiel.
Lui, c'est vraiment très important. Très, très important. C'est d'ailleurs lui qui va la présenter à son éditeur.
Tout à fait.
Hein, c'est Grasset, je crois. Hein. Mmh, mmh, mmh. Si Ella possède un grand sens du vent, vous dites-vous, Gerbaud est imparable dans l'utilisation d'un sextant et la lecture d'une carte marine. Après, plus loin, C'est à cette occasion qu'Alain Gerbaud leur confie son plan. Il envisage la première traversée de l'Atlantique en solitaire, à la voile et sans moteur, par la route des Açores, de Gibraltar à New York. Une promesse qu'il a faite à trois de ses camarades disparus pendant la Grande Guerre. Donc c'est vrai qu'avec Ella Maillard, ça va être très très enrichissant, et pour l'un et pour l'autre. Elle qui est une femme de terrain, je pense que d'abord c'est une avant d'être une aventurière, c'est une femme très organisée, une femme de terrain. Et il va lui inculquer même une discipline de vie et de voyage, par exemple. Au sujet des provisions à bord, il préconise les vieux régimes des marins, des biscuits, bœuf salé, porc salé, bacon, riz, pommes de terre, beurre salé et jus de citron contre le scorbut. Le tout en boîte de zinc. Vous conseille d'avoir vos voiles passées à l'huile, de lin, ocré, ainsi que le pont. Et ça, Ella Maillard, elle adore.
Oui, 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 tout à fait. Et puis, nous, pour nous, c'est un bonheur, hein, puisque là, on parle aussi de ce travail d'écriture pour faire mieux connaître Ella Maillard. Et c'est vrai que c'est le point de départ de ce projet, c'est ça. C'est finalement de mieux la faire connaître, d'aller chercher un peu aussi plus dans ses archives, de révéler des choses. Et c'est vrai que le bonheur, c'est de tomber sur la correspondance, par exemple, qu'elle a entretenue avec son ami Alain Gerbaud. La correspondance est magnifique.
Alors, comment se sont-ils rencontrés ?
Eh bien, ils se rencontrent ce n'est pas sur le vieux port de Marseille qu'ils vont se rencontrer, mais oui. C'est à Nice. À leur retour, justement, de navigation avec Perlette, ils vont revenir sur Nice avec Miette, et ils vont s'amarrer à couple, comme on dit, hein, coq contre coq, à Nice. Et c'est là, et c'est par le biais même de Virginie Henriot, qui est aussi une championne de voile, qu'elles vont rencontrer Alain Gerbaud. Et il va se nouer quelque chose là, vraiment une évidence, une très belle amitié en fait. Hein. Par-delà la différence d'âge, il va y avoir quelque chose de très très beau. Ils se prêteront les uns les autres les livres, ils céderont, enfin c'est... Et à lire la correspondance, franchement, il y a une amitié qui va se déployer au fil des années, qui est extraordinaire. Et c'est vraiment, ouais, c'est très beau justement tous les conseils qu'Alain Gerbaud va pouvoir leur prodiguer. Par papier en fait, hein, en écrivant, donc c'est très très beau.
Et alors, ce que vous montre aussi, c'est le rôle un peu... Est-ce qu'elle était féministe, Ella Maillard? Mais j'ai pas l'impression, elle dit « Je suis une fille, mais je demeure persuadée que la chose en soi est sans importance, tant il est vrai que tous les marins se ressemblent et que je suis marin d'abord et avant tout. » Donc voilà, elle est...
C'est tout à fait ça, Valère. Je pense que là, ça résume assez bien sa façon d'envisager l'égalité entre les hommes et les femmes. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose justement qui dépasse la dimension du genre. Elle recherche à être bien dans sa vie. Elle cherche pas à, les différences. Et ça, c'est grâce certainement à sa mère. Sa mère, Dagmar, elle a des origines danoises. Donc, il faut bien, avoir ça en tête.
Les bateaux aussi, hein. Le Danemark a une forte tradition de navigation, non ?
Aussi, mais je pense que là, on est plus, du coup, sur l'idée en tant que femme scandinave, de l'égalité des hommes et des femmes, et de l'émancipation. Et elle va vraiment élever, puisque Ella Maillard a un frère, hein, de 6 ans son aîné, sa mère va donc les élever dans l'idée qu'ils doivent faire leur propre choix et avancer dans la vie en cherchant, en étant cohérent avec ses choix, avec leurs choix.
Ah oui, d'ailleurs, ce qui est passionnant aussi, c'est qu'elle est très cash avec ses parents. Il y a un dialogue très clair et net, je vais retrouver la citation, mais elle répond du tac au tac à ses parents. Elle sait exactement ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, surtout. Mais ce qu'elle aime pour le moment, c'est vrai qu'avec Gerbaud, voilà ce qu'on apprend à aimer, ce n'est pas tant la mer que les bateaux. Ce sont eux qui donnent leur raison d'être au flot mouvant. Elle aime la... Le côté physique du bateau, le côté d'apprentissage, on peut dire que c'est une éternelle apprentie, la Maillard.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Bon, alors, c'est vrai qu'au départ, on a peut-être omis de dire qu'Ella Maillard, elle ne va pas briller comme on pourrait l'imaginer dans les études. Elle n'aura pas son bac, elle ne va pas poursuivre justement des études à l'université. Donc, elle n'a que pour elle, en fait, on va dire, mais c'est énorme, une une volonté de faire, une curiosité et cette dimension physique où elle va embrasser le monde, elle va tout ce qu'elle va vouloir découvrir. Voilà, il ne tient qu'à elle donc de faire et de découvrir et d'avancer. Donc en effet, elle passera du temps hein, sur tous ces navires, mais elle va apprendre et elle va trouver sa force en faisant. C'est vraiment dans la dimension physique aussi des choses, en effet.
Dans la dimension physique, et c'est une force de volonté. Mais alors, c'est très important pour les jeunes qui liront votre livre et qui découvriront Hélène Maillard. C'est très important. Voilà ce que vous écrivez, je crois. Elle est sujette à des moments de découragement et de fort abattement. Oh lâche, lâche, trois fois lâche. J'ai pu faire le vide et laisser la vague de fond éclater. C'est atroce. À quoi bon ? C'est le vide. Ni amitié, ni amour filial, ni devoir, ni but, ni raison d'être. Aucune richesse de cœur, aucun principe de vie, aucun orgueil. Avec orgueil, je m'efforce de rester humble en face de l'univers ou de moi-même. J'avais des parents épatants. Ils m'ont dit, à ce moment, c'était rare, tu es responsable de ta vie. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais apprends un métier. Et j'ai répondu, je ne veux pas apprendre un métier. Je ne veux pas vivre dans une ville. Qu'est-ce que tu feras ? Ça, c'est ce qu'on dit. Quand tu auras faim, tu seras obligé de te marier. Ah, j'ai dit, jamais de la vie. Et alors, j'ai répondu à un article du journal de Genève qui m'a emmené en Angleterre. Donc, ce qui est important de signaler, c'est que ce n'est pas simplement de voyager pour son plaisir. C'est voyager, elle cherche avant tout, Hélène Maillard, une façon de gagner sa vie, sans perdre sa vie, sans perdre son temps. C'est-à-dire concilier l'utile et l'agréable.
Tout à fait.
De sa passion, de sa curiosité pour la planète, hein, pour le voyage. Mais elle ne veut pas être assignée à résidence. Donc il lui faut trouver un moyen de subsistance puisqu'elle veut être indépendante.
Voilà, c'est sûr. Elle va toute sa vie, hein, d'ailleurs. Hein, ça sera son leitmotiv. Hein, c'est de continuer de voyager, de continuer de s'affranchir, de se chercher aussi beaucoup, hein, puisque c'est aussi une démarche de parcourir le monde, mais aussi dans cette démarche de recherche, en fait. Hein, recherche personnelle, de recherche de qui elle est, puisque elle aura aussi, ça sera quelqu'un qui sera traversé de nombreux doutes, et tout en s'assumant financièrement. Donc avec cette nécessité économique de travailler, par la suite elle écrira des articles, des livres, etc. Mais il y a cette nécessité aussi de s'assumer, et certainement pas de se faire entretenir, que ce soit par un mari ou bien par ses parents. C'est pas du tout l'idée là.
Alors à un moment donné, je crois que c'est Marthe Houllier qui raconte, vous dites, Marthe Houllier raconte comment les filles se précipitent sur le code international des signaux qu'elles n'ont apparemment jamais ouvert. Elles attrapent une paire de jumelles pour distinguer les signaux qui signifient stopper immédiatement. Parce que c'est ça aussi, naviguer. Naviguer, c'est tenir sa vie, c'est avoir l'œil ouvert, c'est faire des quarts de veille, c'est aussi apprendre le travail d'équipe.
Oui, surtout lors de cette navigation, on est sur la Bonita, donc c'est un peu plus tard, hein, et elles sont cinq filles à bord, et elles repartent en fin de compte vers la crête, où un champ archéologique les attend. Et elles mèneront des fouilles, qui seront d'ailleurs encadrées par cette fameuse Marthe Houllier, qui est une apprentie archéologue. Hein, donc ce sont là, pour le coup, des étudiantes à la Sorbonne avec Miette. Donc oui, là il s'agit effectivement de vivre à bord. C'est une petite communauté avec des règles, avec des choses à faire à bord. Enfin, je veux dire, c'est une navigation assez longue malgré tout. Hein. Et là, elle est effectivement à la barre, c'est elle qui va mener en fin de compte l'équipage.
C'est elle qui mène l'équipage, mais elle apprend aussi à dessiner. Elle précise qu'il a fallu, selon les consignes de Marthe, dessiner toutes les cruches, parfois en double, à l'encre de Chine et les colorier, puis lever les plans des maisons, ce qui n'est pas simple d'après elle, surtout quand on n'est pas architecte, et plus compliqué sans un instrument élémentaire. Oui. Donc c'est vrai que il faut apprendre pour elle, à cette confrontation avec l'archéologie, avec le terrain, l'aide à devenir ce qu'elle va devenir.
Oui, tout à fait, puisque bon, c'est vrai qu'Hélène Maillard, n'ayant pas fait d'études, elle va de nouveau, là encore une fois, apprendre sur le terrain. et elle va se mettre à disposition finalement de cette jeune archéologue, hein, Martoulier, qui va lui donner des indications pour lever les silhouettes des tessons, les dessins. Enfin, je veux dire, c'est un apprentissage pour elle qui lui servira énormément par la suite, puisque finalement tout est en train de se mettre en place aussi dans son esprit, de comment dans la suite je vais pouvoir utiliser mes voyages pour éventuellement en parler lors des conférences, puisque les conférences, ce sont aussi des activités qui l'occuperont tout au long de sa vie. Donc voilà, ça lui permet aussi d'apprendre à la manière dont on collecte des informations, comment on les réserve pour la suite, comment, voilà, elle apprend une rigueur aussi qui sera vraiment absolument essentielle aussi. Et c'est tout un rapport au réel, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ces voyages ? Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas seulement, on est loin du voyage touristique. Il y a cette nécessité peut-être de partir, en effet, mais c'est aussi de se questionner, et très vite elle va se questionner sur comment je raconte mes voyages. Qu'est-ce que je capte de ces voyages, de ces rencontres, etc. C'est toute une réflexion aussi autour de ça.
Et je dirais qu'Ella Maillard a un rapport assez complexe à l'écriture. Voilà ce qu'elle dit. Je me refuse à emprisonner nos actes dans le moule rigide des phrases. Excepté quand j'étais en bateau ou sur Miski, je me sentais perdue. Je ne vivais qu'à moitié. Donc elle est tiraillée entre le besoin d'action, le besoin d'être physiquement présente au monde, et après, la nécessité de partager son expérience, de la mémoriser, et comme l'écriture va devenir son moyen aussi de subsistance, hein, elle va vivre aussi de son écriture, donc elle va se confronter à l'écriture. Mais au départ, c'est pas évident, hein, le lien qu'elle a avec l'écriture, Gwenaëlla Bolivier, il va être c'est ça qui est intéressant, hein, dans votre recherche.
Oui, on voit que ce lien, qu'elle va réfléchir et que ça va évoluer au fil du temps. Mais c'est vrai qu'au départ, elle doute, en fin de compte, de ce travail sur les mots. Elle doute du pouvoir des mots. Et puis bon, elle va se révéler. Je pense que c'est aussi en travaillant l'écriture qu'elle va se rendre compte à quel point elle y prend aussi un certain plaisir. Bon, elle aura du retour, des retours aussi de lecteurs, hein. On sait l'importance aussi du jeu d'aller-retour comme ça entre l'écrivain et son lecteur. Enfin, c'est très important aussi d'avoir ce décalage avec le regard de l'autre qui révèle quelque chose de ce qu'on peut faire. Donc, tout ça, ça va évoluer, elle va évoluer au fil du temps. Mais on voit bien finalement que ça va être un personnage qui va être en constante recherche. C'est ça qui est formidable, en fait. C'est ça qui est passionnant. Tout au long de sa vie, elle va chercher, en fait.
Et tout au long de sa vie, elle fait une rencontre qui lui ouvre une porte. Je pense que Gerbeau la met un peu au pied du mur pour l'écriture. Puisqu'il
l'encourage, hein, ça c'est sûr.
Il l'encourage, ouais. Il lui présente son éditeur.
Qui y croit en elle, en fait. Effectivement, cet éditeur, Fasquelle, va vraiment croire en elle, va l'aider, va l'encourager. Donc,
c'est les éditions Grasset. Hein,
voilà.
Un grand éditeur. Et va même lui donner des avaloirs pour qu'elle puisse quand même partir en voyage. Enfin, je veux dire, on lui fait confiance. Mais elle se donne les chances. Elle se donne aussi l'énergie... la capacité d'être en réponse.
Voilà, donc elle va... Oui, tout à fait, c'est absolument important. Lorsqu'on lui donnera ce premier avaloir à la suite de son texte, Parmi la jeunesse russe, qui est donc un livre qui sera édité à la suite de son voyage à Moscou et dans la suite, hein, c'est-à-dire dans les premières provinces, la Svanétie en l'occurrence, qui est aujourd'hui la Géorgie. Mais c'est vrai que ce texte, qui sera d'ailleurs... pas très bien reçu en Suisse, qui sera assez critiqué, mais beaucoup mieux reçu en France. Bon, après, on pourrait reparler de la façon dont les choses se sont faites dans son esprit. C'est vrai qu'elle arrive, elle va découvrir Moscou, elle n'aura pas du tout un regard critique.
Alors, il faut dire pour les auditeurs s'y retrouvent, c'est-à-dire qu'il y a une période de navigation avec Miette. Miette tombe enceinte, hein, à un moment donné, et donc elle ne peut plus, et puis elle se marie, donc elle ne peut plus vivre ces aventures de navigatrice. Donc, Ella Maillard pensait vivre sur l'eau. Et puis, c'est un peu comme Théodore Monod, il y a un revivement dans sa vie. Elle se croyait sur l'eau et elle va aboutir atterrir sur terre. Donc, il y a Gerbeau, etc. Et elle va donc partir en Russie. Voilà, c'est voilà. Pour expliquer aux auditeurs que il y a une rupture très importante dans sa vie.
Oui, oui, d'ailleurs, ça sera difficile pour elle hein, d'accepter que finalement le destin qu'elle s'imaginait sur l'eau avec Miette, eh bien les choses ne se feront pas comme elle l'avait imaginé.
Voilà.
Donc, alors qu'elle est fondamentalement, enfin, je veux dire, elle était faite pour ça, en fait. Hein, c'est son élément, l'eau. Mais, eh bien voilà, il va falloir qu'elle, là encore une fois, qu'elle rebondisse. Hein, je pense que là, c'est tout à fait approprié. Elle va rebondir, elle va très bien le faire d'ailleurs. Puisqu'elle va partir d'abord à Berlin, où elle fera aussi une belle rencontre à Berlin. Elle va rencontrer.
On en parlera tout à l'heure.
Voilà. Donc Berlin, et puis elle va partir à Moscou, et puis voilà. De là, je veux dire, ça sera la grande passion pour l'Orient.
Voilà. Eh bien, on va écouter un peu de musique parce que je sens que ça arrive dans les oreilles. Je ne sais pas quelle musique, mais bon, nous allons faire une pause musicale. Et voilà, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui, en présence de Gwenaëlla Bolivier, qui vous dira tout sur Ella Maillard et sur son livre Ella Maillard, l'intrépide femme du globe, qui vient de paraître aux éditions Paulsen. Alors, Gwenaëlla Bolivier, nous parlons d'Ella Maillard, qui est une femme qui a pris le temps de se chercher, de se trouver, de se perdre. D'ailleurs, la gouvernante de Miette la surnomme Mademoiselle, c'est injuste. Car elle est prompte à s'insurger contre les inégalités, prenant fait et cause pour les plus faibles. Il y a aussi ça chez Ella Maillard, c'est une combattante qui n'aime pas les injustices et qui... Voilà, elle a un côté, oui, elle est... En tous les cas, elle a un côté altruiste.
Tout à fait.
Ou constructif.
Oui, 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 c'est quelqu'un qui d'ailleurs, ça se voit aussi à travers ses photos, puisqu'elle va traverser le monde avec un appareil de photo, et on voit à quel point les personnes qu'elle photographie lui renvoient un regard ami, un regard curieux, une curiosité, c'est très intéressant. Et Ella Maillard, c'est quelqu'un qui aime la rencontre, hein, qui est l'amitié, c'est quelque chose de très important pour elle. Donc il y a une grande comme ça, une grande empathie, je trouve, pour l'autre. Et puis elle est vraiment prompte, effectivement, à s'insurger, à dénoncer les injustices. Et donc elle aura tout un parcours aussi de grand reporter, d'écriture, un peu dans la veine d'un Joseph Kessel. Hein. Donc elle va aimer porter la plume dans la plaie, justement, comme ça, pour dénoncer. D'ailleurs, elle va laisser des grands articles, hein, dans le Petit Parisien, par exemple, puisqu'elle va, elle va rencontrer, hein, son rédacteur en chef, Élie José Bois, et qui va lui faire confiance, là, et elle va partir, comme ça, au Mandchoukouo en particulier. Elle va écrire de grands articles.
Elle va écrire de grands articles. Alors, il faut dire aussi, avant ça, ou après, je ne sais plus, je ne suis pas très forte en chronologie... vous dites, par exemple, j'insiste pour ce côté battante. À seulement 16 ans, elle fonde le Champel Hockey Club, première équipe féminine de hockey sur gazon en Suisse romande, comme il en existe en Angleterre. Elle recrute des joueuses anglaises à Genève auprès de la nouvelle Société des Nations. Donc c'est quelqu'un qui a des initiatives, Ella Maillard, qui n'hésite pas à aller vers les uns ou vers les autres. Oui. D'ailleurs, elle gagne sa vie. Alors, c'est assez, parce que c'est plein d'espoir pour les jeunes générations de la lire et de lire ce livre, parce que il n'y a jamais une porte qui se ferme. Elle frappe à toutes les portes. Elle cherche toujours un moyen de gagner sa vie. Par exemple, moi, j'ai appris, elle gagne sa vie en donnant des cours de conversation en anglais. Donc, ça, c'est. Puis après, elle va faire même de la figuration. Elle va doubler les premiers films parlants.
Ah oui, non, mais c'est. Elle a toujours une idée. Elle a toujours une bonne idée. Enfin, c'est vrai qu'elle ne se laisse pas abattre. Et vous évoquiez sa dimension sportive. Là, j'ajouterais une chose aussi, c'est qu'en 1924, donc il y a un siècle, ouais. Elle a 21 ans, quand elle est désignée par le comité olympique pour représenter justement la Suisse au JO de Paris. C'est donc la plus jeune de l'épreuve mixte qui va se dérouler à Melun. Voilà, donc elle, là, encore une fois, elle est à bord d'une embarcation. Bon, elle se fera éliminer, mais ce que je veux dire, c'est qu'on la retrouve là, au JO. C'est quand même assez étonnant. Mais oui, si elle ouvre les portes et elle les pousse quand les choses sont un peu plus compliquées. Non, c'est une volontaire. Elle est incroyable d'énergie et de elle est déterminée.
Alors, quels sont les pays, on va faire un petit peu, il y a les pays où elle a voyagé et ceux dans lesquels elle n'a jamais mis les pieds, Gwenaëlle Wilmy.
Oui, non, il y a quand même beaucoup de pays où elle n'est jamais allée.
J'ai l'impression. Alors, elle a fait l'Asie.
Ah oui, c'est ça. Sa ligne, c'est ça. C'est vraiment, faut partir de Genève, Paris, Moscou, Berlin, Moscou, et puis après, toute une ligne vers l'Orient. Donc les provinces, donc elle va découvrir toutes ces provinces qui sont soviétisées. Bon, après elle va aller jusqu'en Inde, l'Afghanistan, le Cachemire, l'Extrême-Orient russe. Voilà, elle ira jusqu'au Pacifique. Enfin, c'est vraiment, ça va se situer là, essentiellement.
Je vous dis, elle a un côté vraiment boy scout. Vous dites, la jeune Suissette a un côté boy scout, ne part jamais sans son équipement de base, couverture, crampons et même poêle à frire. Sans oublier des provisions élémentaires comme du beurre, des biscuits, du saucisson et du porridge. Mais ça, c'est l'apprentissage du voyage. Ça, elle s'y fait très bien. Elle porte beaucoup, c'est quand même très lourd. Elle porte 15 jours de nourriture, quand même, d'après ce que j'ai compris quand j'ai vu des films sur elle. Elle explique qu'elle part quand même avec 15 jours sur le dos. Il fallait être costaud, c'est une femme.
Ah oui, c'est une force de la nature d'une certaine façon. Bon, c'est vrai qu'elle a été aussi élevée sur des skis avec sa mère scandinave, là, qui emmenait ses enfants sur les pentes suisses. À une époque, il faut le rappeler, mais il n'y avait pas de remonte-pente mécanique. Donc, elle a vécu sa jeunesse sur les pentes suisses, les montagnes, enfin. Enfin, je veux dire, elle a renforcé aussi une santé peut-être un peu fragile au départ. Voilà, elle s'est devenue une belle grande jeune femme sportive et forte.
Et puis alors, les rencontres incroyables. Quand elle va en Russie, elle trouve une chambre chez Olga Tolstoya, traductrice et belle-fille de Léon Tolstoï. Écoutez, il faut le faire. À chaque fois qu'elle va quelque part, il se passe quelque chose avec Ella Maillard. On dirait vraiment, c'est un peu, vous voyez, c'est, je vous dis, parler d'un personnage de roman, mais elle est toujours là où il faut au bon moment.
Oui, c'est. Et puis avant ça, elle rencontre à Berlin. La Charmian London, oui. Donc l'épouse de Jack London.
La veuve de Jack London qui lui donne en place, c'est elle qui la met sur la voie de la Russie.
Tout à fait. C'est assez marrant. Elles vont passer du temps. Il y a une lettre qui raconte ça. Elles vont passer du temps ensemble. Elles iront au zoo ensemble à Berlin. Elles se reverront. Elles iront. Voilà. Et Charmian lui donne d'ailleurs $50, qui représente quand même une somme importante pour l'époque. Elle va lui donner un chapeau. Aussi, enfin, il y a une belle amitié là qui est en train de se nouer, et voilà, c'est une rencontre, effectivement, il y a une dimension romanesque.
Voilà ce que vous écrivez. Charmian, qui est âgée de 58 ans, se prend d'amitié pour la jeune voyageuse. Elle lui offre un chapeau. Il lui donne $50, une somme considérable pour l'époque, qui lui permettra de poursuivre sa route vers l'Orient. Charmian se verrait bien accompagnée, là, en Russie. Car, d'après elle, c'est dans la langue de Dostoïevski que les livres de Jack London ont le plus de succès. Le jour même, Ella achète un dictionnaire russe.
Voilà, c'est ce que racontent ces textes aussi, Ella. C'est elle qui le raconte elle-même à travers ses textes.
Alors, elle a aussi un côté visionnaire, je trouve. Par exemple, elle pronostique, alors dans ses livres, que le ski, l'avenir du ski. Elle le voit avant tout le monde. Alain, on peut dire qu'elle est quand même très, très visionnaire. Et alors, en Russie, voilà ce qu'elle écrit. « La réalité géographique de la Terre m'obsède. Je sens autour de moi la vie des latitudes, dotées chacune de sa couleur spéciale. Pas une de mes pensées qui ne soit en quelque sorte orientée vers l'un des points cardinaux. Je suis prise à jamais dans les lignes de force de l'aiguille aimantée. »
Oui, ça c'est un extrait de, je pense, des Monts Célestes au Sable Rouge. Donc voilà, donc là elle part, elle va partir vers l'Est et les choses vont commencer à se déployer dans son esprit aussi. Et puis elle va devenir effectivement plus poète dans son écriture.
Elle va Il y a une évolution dans l'écriture d'Ella Maillard, vous qui l'avez lu, relu. Évidemment, pour écrire ce livre, il faut se plonger dans son œuvre.
Elle va s'améliorer de livre en livre, hein, c'est ce qu'on peut dire, hein, ça c'est certain. Tout à fait.
Et elle a une écriture, comment on pourrait la qualifier, son écriture?
C'est une écriture, malgré tout, du réel. C'est une écriture où les faits sont là, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui raconte, elle ne peut pas inventer, il n'y a rien de romanesque dans tout ça. Donc c'est très documenté, c'est très précis. Elle raconte aussi des rencontres, évidemment, quelques portraits, et vont s'immiscer quelques bribes comme ça, de textes un peu plus poétiques, un peu plus introspectifs. Un peu plus personnel. Mais on est quand même sur des textes qui sont comme des très grands reportages, on va dire.
Ouais, très grands reportages, mais avec quand même une philosophie. D'ailleurs, elle a une philosophie de la vie, Ella Maillard, Gwenaëlle Obolivier. Elle n'arrête pas de penser, malgré tout. Sa devise, allons voir et en avant. Formidable.
Oui, et puis il faut aller voir, en fait. Hein.
Voilà.
D'ailleurs, une formule qui a été reprise par le festival de Clermont-Ferrand, le festival du carnet de voyage. C'est vrai qu'elle avait un côté très pragmatique et aussi très... elle avait une confiance en l'autre. En fait, elle avait tendance à dire que là où les hommes vivent, on peut aller voir, on peut vivre aussi soi-même. Je trouve ça très, très positif, en fait. C'est aussi une façon de croire et d'avoir confiance en l'autre. Malgré les différences, voilà, il y a de l'altérité, il faut s'enrichir de l'altérité plutôt que de s'en protéger. Je trouve que c'est aussi très moderne et parfois il est intéressant de pouvoir le rappeler, surtout aujourd'hui.
Et ce qui est aussi très important, c'est le temps du voyage. C'est en Orient qu'elle désire se rendre. Je veux traverser le désert au pas lent des chevaux et au siècle des avions comprendre l'état d'esprit des caravanes. Donc aller au rythme du temps, du pays dans lequel elle se trouve. Elle se plie aux coutumes. Vous dites vous-même, elle voyage comme une clocharde intelligente, futée, endurcie. Ella Maillard a réussi à sortir en contrebande ses rouleaux de films et ses notes qui constituent un témoignage de première main. Parce qu'il faut dire qu'entre-temps, elle est photographe, elle filme, elle écrit.
Oui, c'est ça. Et alors, lorsqu'on dit qu'elle part comme ça sur ses routes, ses grandes routes, là, on est vraiment sur des voyages, mais c'est des voyages qui s'étirent. C'est incroyable. Là, on pense par exemple au grand voyage qu'elle va réaliser avec Peter Fleming. C'est plus de 6000 kilomètres à pied. Enfin, il fallait une énergie, une résistance, c'est incroyable. Ils vont partir 7 mois pour relier Pékin au Cachemire. Hein. Donc là, on est dans les années 30. Mais en fin de compte, d'ailleurs, Nicolas Bouvier dira hein, que c'est le plus beau trajet de pleine terre qu'on peut faire à travers le monde. Donc là, on est évidemment, là, tout s'annule, le temps s'annule. On est dans une. Je crois que là, à ce moment-là, elle rentre dans une espèce d'éternité du voyage. Donc, ils seront aidés de chevaux. Alors, c'est vraiment les grandes caravanes.
Alors là, il faut dire qu'elle a troisième rencontre très importante. Peter Fleming, journaliste au Times, qui est le frère de Ian Fleming, donc c'est le créateur de James Bond. Alors,
c'est vrai que là, il y a quelque chose.
Il y a quand même, faut quand même le faire. Hein. Elle rencontre le frère du créateur de James Bond. Bon, elle le retrouve, elle le rencontre, et puis d'ailleurs, comme elle a le sens de la répartie, Ella Maillard, quand ils se rencontrent, elle retrouve Peter Fleming à qui elle parle. Il lui répond que c'est justement par cette route qu'il envisage de rentrer en Europe. Si vous voulez, vous pouvez venir avec moi, lui dit-il. Ce à quoi l'exploratrice rétorque, pardon, c'est mon itinéraire à moi, c'est moi qui vous emmènerai, et j'y trouve avantage.
Ah oui,
non, mais tout de suite.
elle se démonte pas. Enfin, c'est vrai que.
Et c'est pourtant, assez... c'est un peu son alter ego, Peter Fleming, quelque part.
Bah, en tout cas, c'est un très bon compagnon de route. Hein. Et tous deux vont, eh bien, céderont, vont se seconder, vont. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Enfin, je veux dire, le voyage, quand on lit Oasis interdite, c'est un magnifique texte. On est vraiment là, pour le coup, on est au cœur de l'aventure. Enfin, c'est quelle énergie il a fallu pour déployer et résister, enfin, dans des températures, dans du sable, enfin, c'est très très dur hein, d'avoir voyagé comme ils ont pu le faire. Donc, je pense que c'est deux très bons compagnons. Ils seront solidaires, ils vont s'aider. Alter ego, je sais pas, parce qu'ils sont quand même aussi différents. Ils sont aussi voilà, ils ont deux tempéraments où parfois ça peut friter entre eux.
Ah ben vous dites entre Ella, un tantinet tête brûlée, et Peter, le journaliste aventurier à l'accent d'Oxford, dandy et indolent, c'est une équipée toute singulière qui s'apprête à s'élancer vers l'inconnu.
Ah oui, non, mais
c'est un drôle de tandem.
C'est un drôle de tandem, en effet. Et d'ailleurs, lui, il part, il a un côté insupportable. Il est constamment allé à toute pompe. D'ailleurs, ce qui lui vaut le surnom de ventre à terre.
Ouais.
Mais elle n'en peut plus, Ella Maillard. C'est-à-dire qu'il est toujours en train de vouloir aller très, très vite. Ouais. Je pense qu'elle aurait aimé prendre un peu plus son temps, justement, avec les peuplades. Les nomades qui vont rencontrer, parce que c'est un aspect absolument important. Et dès le départ, hein, pour revenir un tout petit peu en arrière, mais quand Ella est à Moscou et qu'elle découvre à travers le cinéma l'Asie centrale, les peuples d'Asie centrale, ça va la faire rêver, mais à un point, en fait, son grand rêve, c'est ça, c'est de vivre comme les nomades et de les rencontrer, en fait, puisqu'elle s'imagine que ce sont eux qui ont la vérité et qui ont raison de vivre comme ils vivent, c'est-à-dire en liberté, vous voyez, c'est vraiment ce qui va l'intéresser, et tout au long de sa vie, c'est ça qui va sa grande motivation. C'est d'aller rencontrer les peuplades, les gens libres, en fait, les hommes.
C'est plutôt l'appel de la liberté, je dirais. Parce qu'après, à la fin de sa vie, elle va quand même avoir son refuge en montagne, elle va se poser, elle va avoir sa maison à Chandolin, elle va avoir... je dirais que quand même, c'est plutôt l'appel de l'infini et de la liberté, enfin, qui la motive.
Oui, il y a ça, puis il y a aussi de la rencontre. Hein. Je pense que la rencontre d'aller voir, en fait, c'est d'essayer de mieux de comprendre qui sont ces nomades, en fait. Essayer de les côtoyer, de voir le temps se ralentit aussi avec eux. Enfin, je veux dire, ce sont des hommes et des femmes qui ont aussi des vies très pragmatiques, puisque pour vivre dans ces conditions, dans des déserts, dans ces grandes étendues, pour aussi, je veux dire, vivre d'un élevage, hein, puisque ce sont bien souvent des éleveurs qui ont... Il y a l'économie du lait autour de tout ça. Enfin, c'est la survie, elle se situe dans des choses qui sont très... L'équilibre à trouver, là, il est très fragile. Mais pour pouvoir le maintenir, c'est lié à leur survie, vous voyez.
Alors, par exemple, voilà, son approche. Alors, la photo, par exemple. Quand elle débute la prière des Kirghizes, elle se précipite pour les photographier. Elle décrira ensuite dans son carnet la façon dont ils inclinent leur tête jusqu'à terre, tout en foulant le tapis de feutre de leur avant-bras. Au moment de partir, je m'aperçois que j'ai égaré l'écran jaune de mon appareil. Je le cherche et remarque soudain une vieille femme qui le tient devant son œil et regarde ainsi le soleil. Comme souvent, si Ella Maillard observe, elle est aussi observée en retour. Et il y a ça tout au long de ces étapes.
Oui, c'est ça, bien sûr. C'est le dialogue, en fin de compte.
Silencieux, parfois.
Oui, oui, oui. C'est ça qui est beau, en fait, hein, dans le voyage et dans la rencontre. Hein. C'est-à-dire qu'on peut partir, on peut aller au bout du monde et puis se rendre compte que... On est aussi observé, on est source de curiosité, on est nous-mêmes, finalement, on peut aussi participer à un échange. On n'est pas, Ella Maillard n'est pas cette voyageuse qui prend seulement, quoi. Elle participe aussi à un dialogue possible.
Elle fait corps avec le pays, elle fait corps avec le voyage. Être son maître, oublier les camions où l'on est secoué parmi les 25 Chinois, sentir le vent lent sur la joue, la chaude odeur de la mule, le bruit rythmé des sabots sur la route. Et alors, justement, contre toute attente, alors ça, c'est avec Peter Fleming, bon, contre toute attente, elle décroche une autorisation d'accéder au Xinjiang, pourtant interdit. Peter, lui, part dans Sens Sésame, ce qui fera dire à Ella, pour le taquiner, que c'est grâce à son laissez-passer qu'ils ont réussi. Donc voilà. Ça se taquine pas mal. Et vous dites, d'ailleurs, ils représentent tous deux un morceau d'Europe.
Oui, c'est vrai que, comme on le disait, lui d'Oxford et puis elle de Suisse. Voilà, oui.
Alors une autre... à moins qu'on fasse une pause musicale, puisque je vois que ça arrive en musique. Peut-être on va faire une petite pause musicale et puis on va reprendre notre conversation.
Alors dans ce cas-là, puisque je vais continuer le périple, nous allons partir en Arménie, toujours avec le chant des sources, et c'est la grande Françoise Atlan qui chante « Que je meurs au vent des cimes ». Et c'est toujours la flûte d'Isabelle. D'Isabelle comment déjà ? D'Isabelle Courroy.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie et nous embarquons en voyage du côté d'Ella Maillard, l'intrépide femme du globe, un livre signé Gwenaëlle Abolivier et paru chez aux éditions Paul Sen. Gwenaëlle Abolivier, c'est vrai que je dirais que ce qui frappe chez Ella Maillard, c'est qu'elle a toujours un peu la hantise du retour. Parler de son appel vers le grand large. C'est la fin du périple et la Maillard est accablée à l'idée du retour. J'étais triste de la vie facile que j'avais menée si longtemps sous le grand ciel d'Asie. On sent que quand il faut rentrer, elle retarde l'idée du retour et qu'elle se trouve toujours un compagnon ou une compagne de voyage avant de rentrer chez elle. Ou Je ne sais pas, c'est une impression que j'ai eue.
Ah oui, 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 puis elle le dit, hein, de toute façon, c'est quelque chose qu'elle elle supporte pas. Elle tente toujours de prolonger ses périples, hein, ça c'est sûr. Et elle se sent toujours à l'étroit lorsqu'elle rentre et elle doit repartir assez rapidement après. Donc, alors soit elle a des travaux d'écriture qu'elle doit finaliser et elle s'installe à un bureau et c'est quelque chose de toujours douloureux pour elle. Voilà, ou bien elle se trouve toujours une bonne occasion de repartir, faire une course en montagne. Donc elle part avec son frère, des amis. Enfin, elle est toujours en mouvement.
Et chaque voyage est une métamorphose. Voilà, elle vous dit, ils écrivaient, Ella visite le Taj Mahal avant de s'envoler vers la Suisse via Bagdad, Beyrouth et Marseille. Ce voyage l'a profondément marquée. Je n'étais plus la même personne qu'à mon départ. Je n'étais plus uniquement la Suissesse ou l'Européenne. Je me sentais liée au monde dans son ensemble et j'avais l'impression que je ne serais jamais plus tout à fait chez moi à Genève. Donc, l'impression que chaque voyage est une mutation.
Une renaissance,
oui. Comme si une esquisse, elle avait une esquisse au départ, et puis le dessin s'affinait de plus en plus de voyage en voyage vers ce que deviendra sa vie.
Oui, je pense que là, cette citation, justement, vient à la suite. Donc là, on est en 1937, lorsqu'elle rentre de son grand périple avec Peter Fleming. Donc voilà. Ils sont quand même partis près de 7 mois, tout en comptant les semaines. Avant, où elle est au Manchoukuo, justement, en Extrême-Orient. Donc, c'est un très long périple, où à la suite de... C'est un voyage extraordinaire, oui, une expérience de vie incroyable. Donc, en effet, elle ne revient pas la même. Et elle se questionne quelle place elle pourra trouver à Genève. Il est évident que ce sont des voyages tellement... bouleversant qu'elle se demande dans quelle mesure elle peut revenir.
Et puis, il y a toujours chez elle la nécessité de se rendre utile. Par exemple, là, moi j'ai vu un film où on parle d'elle, il y a la mort de son poney. Et elle va faire en sorte d'aménager que la mort de ce poney se passe au mieux. Vous dites, c'est une nécessité chez elle de se sentir vraiment utile pour les personnes comme pour les bêtes, envers qui elle éprouve tout au long de la route une grande empathie. Et c'est cette empathie qui va lui faire rencontrer Anne-Marie Choisin-Barr, qui est une riche héritière, elle, qui était proche donc d'Eric Hamann et Klaus Mann, donc les enfants de
Thomas Mann,
qui est vraiment une fille de famille, hein, descendante des Bismarck, qui est droguée, et c'est, je crois, Ella Maillard qui va venir la chercher parce qu'elle a besoin d'une photographe, ou c'est elle, je crois, qui va la et qui est persuadée que le voyage va d'ailleurs la sortir de la drogue. Donc il y a c'est quelqu'un qui pense à aider, voilà. C'est quelqu'un qui pense à créer, qui pense à aider, qui pense à créer des liens, qui pense que le voyage est une voie un peu pas de rédemption, mais enfin de métamorphose, où on peut changer. Et elle va être déçue, puisque effectivement, non seulement Anne-Marie Choisin-Barr va mourir à 34 ans, et elle ne la sortira pas de la drogue. Et d'ailleurs, à la fin du voyage qu'elles vont accomplir ensemble, ça se terminera d'ailleurs assez mal.
Oui, c'est mais malgré tout, elles vont vivre un voyage, encore une fois, très, très intéressant. Alors, j'ai bien aimé, là, dans ce que vous disiez, Valère, le petit clin d'œil que vous avez eu pour le fameux poney. Oui. Parce que, alors, c'est assez rigolo, puisqu'elle l'avait surnommé son poney Slalom.
Ah, voilà.
Voilà, c'est vrai que c'était un petit animal, apparemment, lui aussi bien intrépide et bien vif, qui faisait des bonds à droite et à gauche, d'où ce surnom. Mais moi, j'ai trouvé très moderne, en fait, la manière dont elle parlait des animaux, justement, tout au long de ses périples. C'est-à-dire qu'elle avait aussi, envers les animaux, un regard, une amitié. Je trouve ça très beau et assez moderne, finalement, pour l'époque. Voilà. Mais c'est vrai que cette sensibilité à l'autre, va se déployer aussi dans sa rencontre avec la journaliste et romancière Anne-Marie Schwarzenbach. Elles vont se rencontrer au Liban. Hein, et puis, elles vont, à partir de là, décider...
Via, d'ailleurs, Miette.
Voilà, tout à fait.
Je pense.
Oui, c'est ça. C'est via Miette, puisque Miette, à un moment donné, va vivre aussi au Liban avec son mari.
C'est là qu'elle va mettre au monde Delphine Seyrig. Donc, d'ailleurs,
voilà,
ouais. Elle va faire sa vie au Liban. Et donc, elle présente Anne-Marie Choisin-Barc.
Voilà. Donc, cette amitié avec Anne-Marie va naître au Liban. Donc là, on est en 1939, et encore une fois, l'Europe est sur le point de vivre le chaos qu'on va connaître. Hein. Et c'est vrai qu'elle, là, encore une fois, ne s'imagine pas rester là, en Europe. Donc, elles en parlent avec Anne-Marie. Elle décide de partir, en fait. Alors, il se trouve qu'Anne-Marie Farsenbach s'est vue offrir une voiture, Ford V8, ouais. Vraiment une voiture incroyable, et qui fait un peu rêver, il faut bien dire aussi, et la Maillard. Et elles vont partir... toutes les deux sur les routes, jusqu'en Afghanistan, où il est question, justement, que les deux mènent, là encore une fois, des fouilles archéologiques. Mais c'est vrai que, alors, Anne-Marie, là encore une fois, c'est une jeune fille qui a un doctorat en histoire, qui a déjà mené des fouilles archéologiques. Enfin, c'est quelqu'un de intellectuellement passionnante, hein, franchement. Donc, elles vont s'attirer aussi, intellectuellement, et il va se créer quand même quelque chose de très important pour Ella Maillard, c'est-à-dire qu'elle va se rendre compte qu'il est possible de voyager aussi et autrement. Il va y avoir une rupture avec le monde du réel, finalement. Elle va se dire que peut-être qu'il est possible d'avoir une réflexion un peu plus verticale, vous voyez, et va se mettre en place, finalement, un voyage un peu plus spirituel. C'est au contact d'Anne-Marie Farsenbach qu'elle va commencer à changer.
Qu'est son opposé, finalement, parce qu'elles sont... Autant il y en a une qui est pratique, dynamique... les pieds sur terre, autant Anne-Marie a pas vraiment les pieds sur terre.
Non,
elles sont complètement opposées.
Tout à fait, et très évanescentes, et puis malheureusement pour Anne-Marie Farsenbach, très dépendante en effet de la morphine, de différentes drogues, ce qui vraiment va vraiment mener à sa perte.
Et d'ailleurs, elle essaye de la sauver. Elle a un contact avec la mère d'Anne-Marie, parce qu'elle a un rapport très compliqué avec sa propre mère. Enfin, oui. Elle a un rapport très compliqué avec sa propre mère. Et elle essaye vraiment, hein, je pense que c'est... Et jusqu'au bout, elle essaiera, quelque part, de la tirer d'affaire.
C'est ça, tout à fait. Elle veut y croire, elle veut aider son amie, elle est... force est de constater que ça ne se passera pas comme elle l'imagine. Donc il y a quelque chose qui se refuse aussi à elle. Parfois, c'est vrai qu'elle est aussi Ella Maillard, elle est aussi un peu parfois, je veux dire, un peu carrée aussi. Elle n'imagine pas que les choses peuvent lui résister, mais bon, de fait, les choses ne se passeront pas comme ça, et elles se sépareront. C'est une belle amitié qui se terminera un peu en queue de poisson, puisque après, Ella Maillard va rester en Afghanistan, elle va rejoindre l'Iran, et puis rejoindre l'Inde, où elle passera cinq années.
Les années de la guerre. Hein,
voilà.
Hein. Mais voilà ce qu'elle reçoit un jour en retour. Anne-Marie morte paisiblement le 15 novembre 1942, suite accident bicyclette. Elle était âgée de 34 ans. Et vous dites, Ella Maillard lui rendra hommage dans son récit La Voix cruelle, où Anne-Marie apparaît sur les traits de Christina. Alors ça, autant Anne-Marie a un rapport très compliqué avec sa mère, autant Ella Maillard avec sa mère, un rapport assez harmonieux finalement, assez de confiance. Sa mère devient un peu son attachée de presse, l'aide. Il y a un vrai rapport de confiance entre
eux. Oui.
C'est ce que j'ai découvert d'ailleurs en vous lisant, Gwenaëlle Aubry.
Oui, la relation est très belle avec sa mère. Sa mère est franchement passionnante aussi. Elle sera d'un grand soutien, elle va donner confiance à ses enfants et en particulier à sa fille. Et elle va l'aider. C'est sûr que, comme Ella Maillard est constamment sur les chemins, elle, cette femme, Dagmar, en restant à Genève, elle sera en effet son attachée de presse, son agent. Elle va accumuler aussi de la documentation pour sa fille, elle va organiser ses conférences, elle fera... Enfin, je veux dire, c'est un élément essentiel, en fait, dans la vie d'Ella.
Voilà ce qu'elle lui écrit d'ailleurs à sa mère. Dans une lettre qu'elle adresse à sa mère, alors de ses journaux, elle écrit « Tu sais que je ne suis pas écrivain dans l'âme, et avant de continuer à écrire des livres imparfaits autant qu'inutiles, cela vaut la peine de réfléchir. » Donc elle se confie vraiment.
Hein. Ah oui, il y a une vraie une confidence entre elles. Ouais. Et la mère aussi, puisque en fait, la mère aura du mal aussi. Venant du Danemark, elle aura peu de relations amicales en Suisse, à Genève. Donc elle va souffrir d'une certaine solitude aussi. Son mari est très occupé, et puis d'ailleurs le commerce finira par faire faillite. Le fils va rejoindre le père pour travailler dans ce commerce. Bon, les choses sont compliquées. Donc je pense qu'il y a une grande, il y a une forme de solitude aussi chez la mère. Et la correspondance, puisque bon, on peut dire que ces femmes s'écrivent enfin pratiquement quotidiennement. Il y a vraiment une belle une complicité. On le sent à travers vraiment cette correspondance à laquelle j'ai pu avoir accès.
Ouais.
Il y a de très belles choses qui se disent. Et je dirais qu'elle avait en fait aussi elle savait très bien lire cette femme, Dagmar, la mère. Elle lui donnait aussi des conseils de lecture, d'écriture. C'est quelqu'un qui avait un goût sûr. Il y a même un moment donné, je trouvais ça hyper intéressant. Hélène Maillard est à Paris. Les nourritures terrestres de Gide viennent de sortir et elle va conseiller à sa fille de se procurer le livre, de le lire, de rencontrer si possible son auteur. Et ça, plus d'une fois. Autre chose aussi sur Karen Blixen, par exemple, oui. Thomas Dinesen, vous savez, de son pseudo. Elle va conseiller sa fille sur ses lectures. C'est...
C'est quelque chose, il y a une grande confiance, elle est à la fois son, vous dites, la mère de Joanne, elle est à la fois son assistante, agent littéraire, grand attaché de presse, mais elle a une implication dans l'œuvre de sa fille.
Ah. Oui, c'est ça, je pense que c'est un aspect méconnu qui pourrait mériter d'ailleurs d'être un peu plus creusé encore. Hein.
Ouais.
Moi, c'est des choses que je révèle, j'ai lu des choses, c'est vrai qu'il pourrait y avoir encore une fois un autre regard, une autre recherche, il y a encore beaucoup de choses à dire, je pense, sur Hella Maillard, peut-être dans le lien, en effet, à cette femme, vraiment, elle est un peu dans l'ombre d'Hella Maillard, mais vraiment, c'est quelqu'un qui a joué un rôle plus qu'essentiel.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire, alors il y a la rencontre aussi avec la photo. Hein, la photo, il faut vraiment qu'on aussi en parle. Est-ce qu'on peut dire que Hella Maillard est un écrivain visuel, Gwenaëlle Abolivier? Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, elle perçoit qu'elle ne vole pas ses photos, qu'elle réussit au contraire à établir un contact, voire un dialogue. Il en ressort une grande fraternité. Les personnes photographiées lui envoient bien souvent un sourire, un regard, un geste. C'est vrai que. La photo, elle est en correspondance avec Henri Cartier-Bresson. Est-ce que ce côté, la photo a enrichi son écriture?
Oui, alors elle disait, Hella Maillard, qu'elle disait « j'ai des yeux qui aiment voir ».
Voilà.
Alors c'est sûr que ça c'est sa grande passion, la photographie en fait. Hein. Tout au long de sa vie, elle va réaliser plus de 25 000 clichés. Tout est très bien répertorié d'ailleurs au musée de l'Élysée. Enfin, c'est énorme la collection. C'est un trésor hein, pour Lausanne. Donc, d'ailleurs, il y a actuellement, je crois, une exposition en Suisse, une exposition de photos. Bon, ces photos, il y a encore beaucoup de photos d'ailleurs, je pense, sur lesquelles on peut se pencher, chercher. Enfin, elle a énormément photographié. Et c'est un regard documentaire.
Avec de l'émotion.
Tout à fait.
Avec de l'émotion.
Mais on est sur le rapport au réel. Hein. On n'est pas sur une photo fabriquée. C'est une photo de reportage, hein, en fait.
Oui, mais c'est une femme, quand on la voit dans les documentaires, les auditeurs qui nous écoutent peuvent voir ces documentaires, elle a vraiment un regard. Elle a un regard sur la vie, elle a un regard sur les êtres. D'où son sens de la réplique. Parce que j'ai oublié de citer ça aussi. Parce que Miette, quand même, elle n'est pas toujours sympathique avec elle, je trouve. Elle lui écrit une fois « Ma vieille, ton livre est épatant, sans blague, il y a beaucoup de sens de l'humanité et du lyrisme juste à point. Tout de même, tu as dû y mettre un coup, mais j'imagine qu'il y a quelqu'un qui a dû te mettre le nez sur ton papier et te tenir ferme. Tu peux le remercier, car maintenant que tu as de l'entraînement, tu pourras remettre ça toute seule à l'occasion. » Ce à quoi Hella Maillard répond qu'elle l'a écrit sans l'aide de quiconque.
Oui.
Je trouve que là, on voit l'écueil qui s'est... Le temps a passé, la distance qu'il y a entre elle et Miette, et que finalement, Biette, elle n'est pas tellement. Elle reste dans son milieu, tandis qu'Ella Maillard, c'est une aventurière.
Oui, tout à fait, mais je pense que Miette, alors là, vous venez de citer un extrait inédit hein, d'une correspondance que j'ai pu trouver entre les deux femmes.
Oui.
Je pense que Miette va aussi, par sa présence, par. Encourager Ella. Parce que Ella, en fait, c'est quelqu'un aussi qui doute beaucoup. C'est un peu son talon d'Achille à Ella. C'est-à-dire qu'elle est traversée vraiment de moments, on ne peut pas dire de dépression, parce que ça serait trop fort pour Ella Maillard, mais malgré tout, elle a des moments de doute où c'est très difficile. Et à chaque fois, Miette, lui redonne confiance, l'encourage, voyez. Et en même temps, je pense que dans l'écriture, je veux dire, nous, on le vit aussi en tant qu'autrice, Valère. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, de temps à autre, d'avoir un regard extérieur, ça nous remet un peu sur le chemin. C'est-à-dire, faut pouvoir aussi accepter les remarques.
Oui, enfin, moi, extérieur. Je la trouve pas très sympathique dans ce courrier.
Je pense que ça l'encourage en fait, parce qu'elle a, parfois, je sais pas, il m'a semblé plutôt voir ça comme ça.
Enfin bon, on peut voir comme on veut. Ouais. Alors d'autres rencontres, Jean Grémillon par exemple, les auditeurs découvriront ça dans votre livre. Germaine Dulac, enfin je vous cite, il y a plein de rencontres. Hein. Oui. Et puis à la fin de sa vie, puisque là, à la fin de sa vie, elle se fixe enfin. Et moi j'ai vu un reportage où on voit Ella Maillard sur le toit de son chalet en train de balayer le toit de son chalet.
Oui,
et elle est comme elle est comme sur un bateau finalement.
Oui, ben c'est un petit peu un bateau, un petit navire qui est amarré à l'espace en fait. Hein. Chandolin,
c'est. Chandolin, présentez-nous ce lieu de Chandolin.
C'est vrai que c'est adorable ce village hein, qui est situé donc en Suisse, dans le Valais suisse. Hein, le Valais, donc c'est un des cantons francophones. Ce petit village où dans les années 50, quand elle découvre ce lieu et la Maillard, on ne peut accéder au village qu'à pied. Donc par la suite, il y aura les fameux cars postaux, il y aura une route, hein. Elle assistera d'ailleurs à l'élaboration de la route hein, qui va desservir le village, mais c'est un coup de cœur total lorsqu'elle découvre ce village, qui est un peu resté dans le Val d'Anniviers. Le village est resté dans son jus, on peut dire. Hein. C'est à 2000 mètres d'altitude, on est quand même bien perché. Et elle va donc se faire construire son chalet, qui existe toujours. Hein. D'ailleurs, je suis allée écrire une partie du livre dans son chalet, qui est donc un chalet en mélèze, enfin, qui sent bon le bois, c'est magnifique, avec en face la chaîne des Alpes, hein, dont le Cervin. Donc le lieu est extraordinaire. On peut d'ailleurs y visiter un petit musée hein, à Chandolin, dédié à Ella Maillard, où on y voit quelques affaires, des choses très personnelles. Mais c'est un lieu, voilà où elle va terminer sa vie. Donc on est dans les années, finalement, 70. Elle a une quarantaine d'années.
Ah, 40, ouais. Quarantaine d'années. Vous dites, c'est Phileas Fogg qui se mue en Robinson, 6 mois par an, dans son chalet devenu refuge, tel un radeau arrimé à la montagne.
Oui, 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 tout à fait.
Et on sent que ce temps-là, elle vit au rythme de l'hibernation, c'est-à-dire il y a l'hibernation dans le chalet, puis le temps du voyage et le temps de l'écriture. Comment écrivait-elle sur le terrain, dans des carnets, comment écrivait-elle Ella Maillard?
Oui, c'est ça, dans des petits carnets comme ça noirs, dont on pourrait dire que ce sont des petits moleskines, des petits carnets de poche. Et elle avait, soit l'écrivait au crayon à papier, d'une petite écriture, mais vraiment tellement serrée. C'est incroyable. Ces carnets sont extrêmement denses, en fait. Hein. Et il y en a quantité de carnets comme ça, donc aux archives de Genève. Elle avait ce petit carnet au fond de sa poche. Hein. Voilà. Mais donc, à Chandolin, elle vivra 6 mois de l'année. Je pense qu'elle vivra l'été à Chandolin et l'hiver, elle repartira en voyage, en fait. C'est l'époque où elle accompagnera en tant que guide. Elle se constituera des petits groupes de voyageuses, plutôt.
Oui.
Et elle repartira, donc, surtout en Asie.
Alors, c'est en 1952 qu'elle rencontre Nicolas Bouvier. Comment s'est passée la rencontre avec Nicolas Bouvier? Il est plein d'admiration pour elle.
Oui, tout à fait. Lui n'a qu'une envie, c'est de venir la rencontrer. Donc, il va venir jusqu'à Chandolin. Mmh. On les imagine discuter, parler de de ses grands voyages à elle, et puis et elle, très généreuse, lui prodiguait des conseils pour l'Afghanistan, sa route vers la, avec sa fameuse Topolino. Il va partir avec son ami Thierry Vernet, qui est dessinateur, hein, et ils partiront vers, vers l'Afghanistan. Donc la rencontre, en fait, je pense qu'elle s'est très bien passée, parce qu'en fait, lui, il va continuer d'avoir beaucoup d'amitié pour elle. Ils vont se rencontrer à plusieurs reprises, ils échangeront un petit peu de correspondance. Je sais que par la suite, lorsqu'il sera au Japon, il lui écrira. Voilà, il y a deux, trois lettres que j'ai pu voir aux archives, justement. Enfin bref, il continue d'être en lui. Hein.
Et elle va aussi. Est-ce qu'elle rencontre Alexandra David-Nel ou pas?
Alors,
comment ça se passe avec elle? Parce que c'est évoqué dans votre livre.
Oui, d'ailleurs, on a de la correspondance là aussi.
Ouais.
Hein. Ou Alexandra, parce qu'elle était aussi, enfin, c'était une femme extrêmement exigeante, Alexandra David-Nel.
Sur laquelle vous avez écrit.
Aussi, oui, une petite biographie pour la jeunesse. Mais Alexandra David-Nel, c'est, faut imaginer quelqu'un aussi de très, avec un tempérament de fer. Hein. Enfin, c'est quelque chose, à mon avis, c'était quelqu'un de moins facile qu'Ella Maillard. Elle a quand même dit dans son courrier qu'elles étaient faites toutes les deux du même bois. Donc, elle a reconnu Ella Maillard comme une grande voyageuse. Elle était plus jeune, hein, Ella Maillard. Je pense qu'elles avaient entre bientôt 25-30 ans de différence.
Bien, puisque je crois que... oui.
Mais Ella Maillard, en fait, alors, c'est vrai qu'elle a beaucoup voyagé en Asie, mais je pense qu'elle est moins orientaliste qu'Alexandra David-Nel.
Ouais.
Et Alexandra David-Nel, c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé les textes. Qui a travaillé, qui a passé du temps aussi, hein, dans les ermitages, enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu dans les monastères, hein, ce que n'a pas fait Ella Maillard. Ella Maillard, en revanche, est allée à Kumbum, par exemple, elle est allée sur les traces d'Alexandra David-Nel. Donc elles vont s'écrire, Ella Maillard va peut-être chercher quelques conseils auprès d'Alexandra David-Nel, et puis elle sera encouragée, en fait, par Alexandra. Mais j'imagine qu'elles se sont rencontrées, puisque de Digne-les-Bains, vous voyez, dans les Alpes de Haute-Provence, finalement, c'était pas très loin non plus de Chandolin.
Est-ce qu'il y a encore des manuscrits à découvrir d'Ella Maillard?
Alors, des manuscrits, de livres, etc.
Des correspondances,
non.
La correspondance.
Oui, il y a toujours des choses à découvrir. Moi, j'ai brassé beaucoup d'éléments. Il y a aussi toute une correspondance en anglais, puisqu'elle écrivait aussi en anglais. Donc, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, je pense.
À la fin, il y a un texte, je crois que c'est Duncan Jungerman, qui la rencontre un peu avant la fin.
Oui, alors Duncan, c'est en fait le petit-fils d'Hermine de Saussure.
Ah, voilà.
Donc c'est le fils de Delphine Seyrig.
C'est le fils de Delphine Seyrig, donc il la rencontre. Lorsque je lui ai demandé si elle était prête à partir, elle m'a répondu tout sourire, son regard bleu d'azur tourné vers l'horizon. Il n'y a rien entre moi et le ciel.
Oui, donc c'est. Je pense
que c'est un témoignage assez beau à la fin de.
Oui, j'ai demandé justement, je lui ai demandé de témoigner en fait sur la grande amie de. Ella Maillard, qui était la grande amie de sa grand-mère, en fait, hein, Hermine de Saussure. J'ai eu envie d'avoir un témoignage direct, et c'est vrai qu'il a été d'une générosité, vraiment, vraiment, je le remercie. C'est d'une grande gentillesse de m'avoir livré ce texte. Je pense qu'il a eu aussi... c'est intéressant, enfin, il avait quelque chose à dire aussi, hein, sur cette femme, qui avait trouvé... à s'apaiser aussi au fil du temps, puisque bon, on l'a dit, hein, donc elle aura vécu aussi 5 ans en Inde pendant la Seconde Guerre mondiale, et Ella Maillard va vivre aussi auprès de maîtres spirituels dans le Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde. Là aussi, elle va faire tout un voyage beaucoup plus vertical, beaucoup plus spirituel. Ça sera aussi ce qui va l'occuper au fil au fil du temps et à la fin de sa vie, en fait. Hein. Elle va cesser d'arpenter le monde à proprement parler, et elle va vraiment beaucoup plus réaliser que le voyage intérieur aussi va pouvoir la nourrir.
Oui.
Voilà.
Quels sont vos conseils pour des jeunes lecteurs qui n'auraient pas encore lu Ella Maillard?
Écoutez, je vous conseille Ella Maillard, l'intrépide femme du club.
Votre livre, par quel livre?
Moi, je trouve qu'il y a un livre, moi, que j'adore, hein, c'est La Vagabonde des Mers, qui est sa biographie, son autobiographie maritime. Ça, je le trouve formidable, quoi. Il est sorti en poche aux éditions Payot, vraiment extraordinaire. Mais c'est vrai qu'Oasis Interdite, c'est très beau aussi. Et puis, s'il y en a trois, eh bien, c'est aussi Des Monts Célestes au Sable Rouge. Je pense que là, on est bien.
Bon, est-ce que ce livre, combien de temps vous avez mis pour écrire ce livre ?
Ben, j'ai fait un peu comme Peter Fleming, c'est-à-dire que j'ai été ventre à terre, comme on dirait. Et ventre à terre, c'est au moins une année.
Ouais.
Et ce qui était déjà assez court, je dirais, c'était long et court, en fait.
Est-ce qu'il y a des bons souvenirs de rencontres personnalité que vous avez rencontré à l'occasion? On vient de parler de Ducane, parce qu'il y en a eu d'autres rencontres
pour écrire
ce livre.
Ben, c'est vrai que je dois dire que l'ayant droit qui s'occupe aussi de toute l'œuvre d'Ella Maillard, qui est donc une dame, Anne-Lise Holman, qui est vraiment une dame qui connaît très très bien aussi et qui était amie d'Ella Maillard. C'est vraiment quelqu'un avec son mari, ce sont des gens qui ont été des personnes ressources aussi, hein, qui m'ont aidée. Donc ça, je dois dire que c'est quelqu'un de valeur aussi, qui connaît bien l'œuvre et la personne. Donc ce sont des personnes qui ont pu me donner confiance dans le projet. Et bon, c'est des gens que j'ai rencontrés il y a longtemps. En fait, ça fait longtemps déjà que je tourne autour d'Ella Maillard, hein. Ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années. Et il fallait trouver le bon moment pour justement se consacrer une année à l'écriture, aller à plusieurs reprises à Genève, à Lausanne. Enfin, ça a été beaucoup de temps, vous voyez, de collecte, hein, d'informations, de temps de lecture et après d'écriture. Donc,
est-ce que vous considérez Ella Maillard, est-ce qu'on peut considérer Ella Maillard comme un écrivain voyageur ou une voyageuse qui écrit? Et vous, est-ce que vous êtes un écrivain voyageur? Vous considérez-vous comme un écrivain voyageur ou comme une, je pense, est-ce que vous vous situez dans cette école des écrivains voyageurs?
Bah, je me sens, je me
vous
sens.
Vous avez beaucoup voyagé, hein, Guadeloupe, Bolivie. Vous avez beaucoup baroudé. Et fait beaucoup de grands reportages.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est dans un sens qui m'a aussi intéressée dans ce travail, c'était aussi de regarder, de porter un regard un peu même rétrospectif, même sur ma propre pratique et mon propre parcours. Je ne veux pas dire que ce livre soit un portrait en miroir, mais de toute façon, malgré tout, Ella Maillard et sa vie me parle en fait réellement, puisque moi-même en effet j'ai travaillé pendant plus de 20 ans à France Inter, France Culture, et par la suite aussi à la RTS, hein, donc la radio suisse. Je continue, hein, là il y a deux jours, pour tout vous dire, je rentre d'Éthiopie où j'ai pu aussi aller découvrir toute la corne d'Afrique, enfin en tout cas dans une partie. Donc j'ai vraiment à cœur aussi d'aller m'expérimenter dans le monde, dans la géographie, pour pouvoir en ramener des écrits. Donc je pars aussi de cette démarche-là. Je ne pourrais jamais me départir de l'expérience de terrain. Et ça, c'est comme ça qu'elle le vivait aussi, Ella Maillard.
Est-ce que pour vous, l'écriture est une aventure?
Oui. Oh que oui. Puisqu'on se découvre à travers l'écriture. Et l'écriture nous révèle aussi beaucoup à soi.
Est-ce que vous écrivez toujours en mouvement? Je sais que vous avez des carnets, dessiner aussi, le dessin. Enfin bon.
Le mouvement est fondamental, en effet. Même si le temps d'écriture, c'est aussi un deuxième temps, et c'est très intéressant aussi de l'expérimenter, ça. Je me sens certainement moins impatiente que la Maillard ne le fut.
Est-ce que chaque livre vous change, vous modifie?
Oui, je pense. Enfin, je sais pas si chaque. Oui, je pense qu'on est.
Celui-là, par exemple, ce qui vous a modifié malgré tout, de vous confronter, aller dans l'intériorité d'un autre écrivain. Est-ce que
c'était une très très belle expérience. J'avoue que je soupçonnais pas à quel point ça allait être aussi satisfaisant de travailler comme ça sur des archives. C'est aussi l'importance de l'archive malgré tout. C'est-à-dire que un siècle, c'est rien. Moi, j'étais en espèce de. Il y avait un côté contemporain là qui s'est passé. Il y avait quelque chose d'immédiat à voir ces carnets qui datent d'un siècle. C'était très très émouvant. Et je pense que ça nous incite aussi chacun à peut-être aussi conserver nos documents. Hein. Parfois, On les range bien vite ou bien on les détruit bien vite après, avoir écrit un texte. Peut-être que c'est important aussi, enfin, c'est intéressant aussi de porter ce regard-là.
Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de travail en archives, là, c'est ce que j'ai vu. Il y a des documents inédits dans votre...
Ah oui, énormément.
Voilà, ça, faut le dire. Hein.
Tout à fait. C'est criblé d'inédits, ce texte. Hein. Donc, c'est en ça aussi, c'est ce qui donne la valeur aussi à ce travail. Et alors, bon, je dois quand même citer aussi mon l'éditrice avec qui j'ai travaillé. Enfin, Laure Giroir, ça a été vraiment un bonheur aussi, cette éditrice qui connaît très bien son travail et qui m'a aidé aussi à porter plus haut mes écrits. Et puis on a travaillé ensemble le graphisme sur la page, c'est-à-dire il y a toute une mise en page, une maquette, le choix d'archives, vous voyez. Donc ça, après, s'il y a tout un dialogue aussi, s'il y a un travail qui peut se faire à deux. Donc c'est voilà, la réalisation d'un livre aussi, c'est toute une équipe.
Toute une équipe. Ah, s'il y a des rencontres que vous allez annoncer, qu'on peut vous rencontrer, Gwenaëlla Bolivier, je sais que vous avez un blog, on peut vous suivre. On peut vous suivre sur les pages de votre éditeur.
Oui,
sur le site de votre éditeur.
Oui, tout à fait. Bon, moi j'ai des rencontres là, les dates, je suis un peu évasive par rapport à ça, mais bon, bientôt il y a un festival qui se passe à non loin de Lyon, à Brignais. Ça, c'est début avril, donc j'y serai. Alors il faut surveiller Chamonix, puisqu'il y a une librairie là aussi, Guérin-Paulsen, donc là je suis invitée, donc je vais m'y retrouver. Il y aura le chapitre nature, le festival chapitre nature à Argenton-sur-Creuse, donc là il y a une petite conférence table ronde. Donc oui, là ça ne va pas arrêter de l'été également, hein, donc il y a un festival à Trégastel début juillet. Enfin bon, j'ai très à cœur de porter mes travaux, et puis donc c'est toujours un plaisir de rencontrer les uns les autres. Moi, je voulais vous faire un petit cadeau, Valère. J'ai Chandolin, puisque vous semblez aussi intéressé. Chandolin d'Anivier, c'est un petit livret. Vous voyez, vous allez retrouver les photos aussi d'Ella Maillard.
Dans son refuge.
Tout merci. À fait.
Merci à vous, Gwenaëlla Bolivier.
C'est moi qui vous remercie pour pour votre implication aussi, comme vous le faites chaque semaine à ce micro, pour les auteurs, les autrices, pour votre amour des textes, des livres, votre curiosité. Enfin, vraiment, un grand, grand merci.
Merci à vous, Gwenaëlla Bolivier, pour Ella Maillard, l'intrépide femme du globe. Ça vient de paraître aux éditions Paulsen. C'était l'émission Bibliomanie, et je vous dis que vous pouvez réécouter sur le site de Radio Libertaire. Je vous rappelle un podcast et je vous dis à la fois prochaine. Merci à vous tous.
Il y a une émission qui vient après, alors je force un petit peu. C'est nous partons en Afghanistan avec Kefaya et Elaha Soror. Je ne sais pas comment on prononce. Songs of Our Mothers.
C'est moi qui te
remercie.
Pardon
pour l'accent.
La main qui fait sonner l'enclume, la main qui fait chanter la plume, la main qui creuse le sillon, la main qui arme le béton. la main qui nivelle l'air, la main qui referme la plaie, la main qui tisse le coutil, la main qui fait rougir l'outil. La main qui fauche les blés durs, la main qui cueille les fruits mûrs, la main qui coule le ciment, la main qui taille le sarment. La main qui tend, la main qui trace, la main qui coule, la main qui brasse, la main qui règle le compas, la main qui tient la bête au pas. Toutes ces mains qui vont et viennent à la cadence des métiers, toutes ces mains qui vont qui peinent, ces mains s'ignorent volontiers. La main qui resserre les taux, la main qui brase les métaux, la main qui fend, la main qui broie, la main qui cloue, la main qui bat. La main qui concasse le grès, la main qui fixe les agrès, la main qui perfore l'acier, la main qui course le clavier. La main qui frappe au cœur des arbres, la main qui façonne le marbre, la main qui plie, la main qui peine, la main qui travaille à la chaîne. La main qui creuse dans la mine, la main qui se blesse aux machines, la main qui souffre et qui se tord, la main qui tremble sous l'effort. Toutes ces mains qui vont et viennent à la cadence des métiers, toutes ces mains qui vont qui peinent, ces mains s'ignorent volontiers. Mais je crie à qui veut l'entendre, ma confiance en l'avenir, les mains sont faites pour s'attendre, les mains sont faites pour s'unir.
Bonjour, eh bien, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité, pour cette nouvelle émission de « Et pourtant, elle existe, cette littérature », émission consacrée à la littérature qui vient d'en bas, et des écrits d'ouvriers, de paysans, d'employés. Et cette émission est réalisée par le Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, qui publie notamment « Fragments, revue de littérature prolétarienne », et qui a mis d'ailleurs en plus de cette revue en place un secteur « Édition ». Nous venons d'écouter « Les mains » de Michel Murti, qui reflète bien, je crois, c'est notre générique, qui reflète bien les orientations, la place du travail dans notre approche de la littérature. Je fais une petite parenthèse, hein, il y a un site sur Michel Murti qui est décédé, qui est chanteur, mais qui était aussi peintre et qui vivait en région parisienne dans l'Essonne. Il suffit de consulter sur Internet. Voilà, alors aujourd'hui dans le studio, nous n'avons pas d'invité, nous sommes trois, donc Frédéric, du groupe La Commune de Paris, de la Fédération Anarchiste qui est à la Technique, et Michel, et moi-même pour la revue Fragments, et le CLOPS. Alors, au sommaire, donc, nous n'avons pas d'invité parce que les dates ne coïncidaient pas pour les personnes qui étaient pressenties, mais ce n'est que partie remise, hein. Et nous aborderons aujourd'hui plusieurs thématiques. Tout d'abord, une rencontre qui a eu lieu le 14 mars à Cachan. Avec Cachan, je rappelle, c'est dans le cadre du centre